En fait, vous analysez la catastrophe yougoslave qui dure depuis 10 ans à travers un prisme politico-économique, comme finalement la conjonction d'une évolution qui est propre à la Yougoslavie et qui est locale, et d'une évolution finalement mondiale qui touche le monde entier. Pour vous, dans l'évolution locale, c'est la période de 68-71 qui a été une période charnière. En quoi exactement?
Bah, disons que le système yougoslave titiste était porteur de toute une série de progrès sur le plan économique et national, mais aussi de beaucoup de contradictions, et que les acteurs eux-mêmes, je dirais, c'est-à-dire les jeunes, les travailleurs, les syndicalistes, s'étaient mobilisés dans les années 68 face aux différentes tentatives de réforme de façon critique. Avec fondamentalement des volontés de réponse en termes d'un socialisme démocratique, pluraliste, anti-bureaucratique, qui soit en même temps solidaire, c'est-à-dire qui se posait le problème de la réduction des écarts de développement entre républiques, entre entreprises, et donc qui se posait à la fois des problèmes de démocratie et de développement économique. Et ceci a été réprimé. Alors, c'est arrivé en même temps qu'une autre logique qui était portée par le système, qui était au contraire de démanteler les solidarités dans un sens à la fois nationaliste au lieu d'être internationaliste, et sur le plan économique, creusant les écarts entre riches et pauvres, et supprimant toutes les logiques de redistribution solidaire, de réduction des inégalités au profit du chacun pour soi, et donc les républiques riches pour elles-mêmes gardant leur devise. C'était notamment porté par le mouvement croate de 71. Et le régime de Tito a répondu, comme dans chacune des phases antérieures, par une combinaison de répression et de concession, ne donnant aucune cohérence. Répression de tous les côtés. On a réprimé aussi bien la gauche que la droite, les libéraux, que ceux qui se réclamaient du socialisme autogestionnaire, etc. Et ce faisant, on a réprimé les acteurs les plus mobilisés, les plus motivés, disons, pour trouver des solutions progressistes aux problèmes qui se posaient. Les problèmes, ils s'en posaient, évidemment. Et d'un autre côté, les concessions qui ont été faites d'en haut ont essayé de répondre aux deux côtés, mais donc de façon contradictoire. C'est-à-dire, du côté des revendications de la gauche socialiste, on a démantelé les banques où des fonds commençaient à s'accumuler d'une façon non contrôlée. On a introduit un système d'autogestion, de planification autogestionnaire qui était revendiquée par la gauche sous des formes de contrats. On a renforcé les droits des unités de base de l'autogestion des travailleurs, mais en même temps, on a accentué, pour répondre aux revendications de l'autre côté, c'est-à-dire de plus de décentralisation économique pour les républiques riches, on a accentué l'autonomie de gestion, par exemple, des devises, qui était revendiquée par le printemps croate, et finalement une logique de confédéralisation où ce qui l'emportait, c'est non pas l'association et la solidarité au travers d'une démocratie pluraliste, mais une répression et de plus en plus de nationalisme, finalement. La décentralisation va prendre un cours très grave, parce que ça va aggraver les gaspillages, les inégalités, et en même temps va se greffer là-dessus le contexte international. Effectivement, il y a dans la décennie 80 une décennie de dette, puisque la dette extérieure est catalysée par les deux crises du pétrole des années 70 plus la hausse des taux d'intérêt en 1980. Donc 20 milliards de dollars de dette, et là se greffe la politique classique du Fonds monétaire international, qui est malheureusement universellement désastreuse, qui ne s'applique pas d'ailleurs, mais qui exerce ses pressions pour essaie de résoudre les problèmes de la dette, non pas en mobilisant les autogestionnaires et la population, mais en démantelant au contraire tout droit d'autogestion au profit d'une logique marchande et en proposant comme solution les privatisations. Il va y avoir des résistances à ça qui vont se traduire en fait par des incohérences croissantes, de chacun pour soi, une hyperinflation et du chômage. Donc absolument pas de résolution de la crise, de la dette, et du coup une désagrégation du système yougoslave sur des bases, y compris ethniques, le parti unique et débouchant sur une multiplicité de partis nationaux dans chacune des républiques, où, dont les bureaucrates et la bureaucratie va se porter, y compris en avant pour adopter les logiques libérales en vogue dans les années ensuite 90, mais avec le problème de savoir quel État allait pouvoir privatiser. Donc il y a le contexte de la construction de l'Union européenne et de la globalisation libérale qui aggrave les éléments de désagrégation en poussant les parties les plus riches de cet espace yougoslave à se dissocier du bateau qui coule et en même temps en ne permettant pas de mobiliser les acteurs autogestionnaires dans une logique de solution autogestionnaire de la crise solidaire. Voilà.
En 1989 est arrivé au pouvoir Markovitch. Certains y voyaient une dernière chance, d'autres une thérapie de choc. Est-ce que ça aurait pu être une dernière chance finalement, ou bien ça a été le coup de grâce plutôt?
C'est une combinaison évidemment des deux, c'est pourquoi il y a les deux lectures qui ont des éléments de vrai.
Donc je précise que la thérapie de choc avait un goût plutôt libéral.
Oui, bien sûr. Le mot thérapie de choc d'ailleurs va être utilisé donc plus tard pour décrire ce qui va être appliqué en Pologne. Et la réalité, c'est que le programme économique d'Ante Markovitch et l'application des recettes libérales, d'une façon non frontale, mais c'est l'idée que c'est la privatisation contre l'autogestion qui permettrait de sortir le pays de sa crise économique et de rembourser la dette extérieure. L'aspect progressiste de Markovitch, bien sûr, c'est quelque part la volonté de lutter contre les nationalismes étriqués. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que les questions nationales sont seulement des nationalismes. Il y a des vraies questions nationales dans les problèmes de la démocratie. Mais en tout cas, Markovitch était la dernière solution yougoslave qui se présentait, si vous voulez. Alors en même temps, l'aspect contradictoire, c'est que si le gouvernement Markovitch était quelque part une solution yougoslave, en même temps, les privatisations appelaient une bourgeoisie. Or, il n'y avait pas de bourgeoisie yougoslave, mais véritablement l'émergence de bourgeoisies utilisant l'ethnicité pour privatiser en s'appuyant sur leur État républicain qui s'était consolidé. Et donc, les courants qui se sont dits ouverts à l'insertion dans l'Union européenne et la globalisation libérale, ne se sont pas tournés vers Markovitch principalement, et les autres non plus, parce que c'était une thérapie de choc. Donc il n'était ni une solution pour les travailleurs dans un sens socialiste ou protecteur en quelque sorte, ni une solution pour ceux qui voulaient privatiser. C'est pourquoi il était un échec.
Vous avez évoqué le rôle de la communauté internationale, en tout cas du contexte international, dans l'éclatement, disons, définitif de la Yougoslavie, avec notamment le rôle de l'Allemagne et du Vatican. Donc l'Allemagne a presque immédiatement reconnu l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie. Comment se fait-il qu'il suffit qu'un pays relativement important fonce tête baissée, disons, pour que le monde entier, ou à peu près, suive?
En l'occurrence, c'était pas le monde entier. Le plus important, c'était effectivement la communauté européenne.
Ce qu'on appelle en général la communauté internationale, pour faire court.
Ouais. Et là, il y avait la construction européenne en particulier, où l'alliance franco-allemande jouait un rôle pivot, l'Allemagne jouait un rôle pivot, et elle a imposé sa politique, son choix de politique extérieure. Et finalement, les gouvernements de l'Union, enfin de ce qui allait devenir l'Union européenne, donc de la Communauté économique européenne, ont préféré faire front et présenter une pseudo-face commune plutôt que de se préoccupé de l'effet de cette action qui a mis de l'huile sur le feu. Je ne dis pas que c'est la cause de l'éclatement yougoslave, mais ça l'a encouragé. Certains commentateurs ont trouvé une espèce d'alibi dans cette erreur catastrophique. Cet alibi, c'était de dire que. Enfin, cette explication, on n'y croit pas, c'était honnête ou pas honnête, mais c'était de dire que de reconnaître l'indépendance, ça empêcherait la guerre, parce que ce serait placer Belgrade notamment et l'armée yougoslave devant une situation où désormais les États étant indépendants, ce serait une intervention extérieure et non pas une intervention interne à un État. Bon, en tout cas, on peut avoir l'interprétation qu'on veut, c'était manifestement au moins une erreur et une erreur catastrophique.
Oui, effectivement, on connaît la suite, puisque la suite, ça a été une dizaine d'années de guerre qui va et qui vient et qui se déplace dans diverses régions de ce qu'on appelle maintenant l'ex-Yougoslavie. Ces guerres étaient menées par l'OTAN, dans laquelle de nombreux observateurs et citoyens voient le bras armé principalement des États-Unis. Et ça évoque pour beaucoup de personnes l'idée d'un complot, entre guillemets, des États-Unis, c'est-à-dire que ce serait une guerre ou une série de guerres de la mondialisation, une guerre menée par les États-Unis, planifiée même par les États-Unis, pour faire entrer, entre autres pour l'exemple, un pays un peu rétif à cette mondialisation libérale dans le rang des bons élèves. C'est notamment la thèse soutenue par Susan George dans un livre qu'elle a écrit. Vous n'avez pas l'air convaincu par cette thèse.
C'est-à-dire qu'il y a un élément de vrai dans la thèse, bien sûr, que je partage dans cette interprétation, qui est la partie finale. Donc les États-Unis ont exploité, non seulement vers leurs intérêts géostratégiques dans le monde musulman, la crise bosniaque, mais ils ont aussi exploité la crise bosniaque, puis celle du Kosovo, pour semer la zizanie dans la construction européenne et essayer de faire entrer la construction européenne dans le cadre atlantique. Et ils ont exploité les impasses des gestions de paix, entre guillemets, des plans de paix de l'ONU et de l'Union européenne en Bosnie, puis à Rambouillet, pour faire avancer leurs intérêts géostratégiques. C'est là, évidemment, que je rejoins Suzanne Georges. Et la dénonciation de l'hypocrisie de l'intervention de l'OTAN au Kosovo, qui n'était ni une intervention pour protéger des vies humaines, puisqu'ils n'ont protégé que les soldats de l'OTAN, ni une intervention pour protéger des droits d'autodétermination des Albanais du Kosovo, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, où sur la base d'une évolution de la situation concrète, disons ce qui était présenté comme les victimes que l'on défendait et dont on défendait les droits, à savoir les Albanais, sont aujourd'hui, disons, traités d'une façon un peu moins ouverte, disons, avec la volonté d'un contrôle géostratégique, je dirais, des Balkans, où le protectorat au Kosovo, la présence de l'OTAN en Hongrie et en Albanie sont des éléments décisifs et beaucoup plus que des droits, des libertés accordées aux Albanais ou des choses de ce genre-là. Alors, on a mis en avant, pour légitimer l'intervention de l'OTAN, un grand méchant absolu qui était Milosevic. Et alors là, ce que je ne partage pas dans certaines interprétations d'une partie de la gauche, c'est l'idée que l'intervention contre Milosevic serait liée au fait que Milosevic résistait d'une façon progressiste à la mondialisation libérale et à l'OTAN. Je pense que c'est faire peu de cas des différentes phases du conflit. Milosevic, avant 89, était totalement partisan des privatisations. Il s'en est d'ailleurs mis plein les poches, ainsi que sa famille, par un clientélisme qui n'a pas grand-chose de socialiste, et qui fait qu'il a été fort peu populaire dans la classe ouvrière serbe qui n'a pas voté pour lui. Deuxièmement, Milosevic n'est pas un nationaliste. d'un homme de pouvoir qui a à la fois joué de la continuité partielle avec le titisme au niveau de ce qu'il y avait de pire, peut-être, pas de ce qu'il y avait de meilleur, mais aussi d'un emprunt aux nationalistes d'extrême droite de tradition anticommuniste et antititiste avec lesquels il s'est allié, notamment le parti radical de Seychelles. Et que la gauche occidentale, au nom de l'anti-américanisme et de l'anti-OTAN, que je partage, fasse l'économie d'une critique d'une alliance avec l'extrême droite et avec donc des politiques ne relevant absolument ni du titisme ni d'une fraternité entre les peuples et d'un droit égal entre les peuples, mais d'une relation d'oppression. Bon, c'est, je pense, être borgne. Donc je pense qu'il y a une hypocrisie du discours occidental et que la gauche, une vraie gauche, aurait dû mettre en avant la nécessité dans la crise yougoslave d'un règlement égalitaire des questions nationales imbriquées extrêmement complexes, sans avoir de solution toute faite dans sa poche, et par conséquent, en considérant que la meilleure des solutions, c'est une solution trouvée par consensus, par les intéressés. Les intéressés, c'est ni l'OTAN, ni les gouvernements de l'Union européenne, ni un quelconque individu extérieur à ce conflit, mais les populations concernées.
On voit que votre position est celle du nini, comme vous l'appelez vous-même, c'est-à-dire ni l'OTAN ni Milosevic. On a assisté dans le monde médiatique et intellectuel et politique aussi à un manichéisme, disons typiquement guerrier, c'est-à-dire que soit on soutient l'OTAN, si on ne soutient pas l'OTAN, on soutient automatiquement Milosevic. Et le nini, comme vous dites, est une position qui, en tout cas chez nous, a été très difficile à soutenir. Qu'est-ce qui en a été en France, dans votre expérience?
C'est évidemment très difficile à soutenir pour de bonnes raisons. D'abord, parce que le Nini a l'air de dire qu'il y a une symétrie. Alors, ceux qui considèrent que le responsable central de la question du Kosovo, c'est Milosevic, disent l'OTAN n'est pas responsable de la répression au Kosovo, l'OTAN ne vient qu'après, et donc ils refusent cette symétrie. Et puis de l'autre côté, c'est la même chose. Et ceux qui mettent le doigt à juste titre sur les intérêts géostratégiques des États-Unis et de l'OTAN, disent c'est ridicule de pouvoir mettre un quelconque signe d'égalité entre un tout petit pouvoir qui est celui de Milosevic, qui a d'ailleurs commis un certain nombre de misères et de politiques réactionnaires, mais qui n'a rien d'un Hitler et qui ne menace pas l'Europe. Et puis l'OTAN de l'autre côté, qui est une très grande puissance et par rapport à laquelle, en plus, nous, en tant que citoyens de l'Occident, nous sommes concernés et par conséquent que nous devons dénoncer. Mais je pense que nous ne sommes pas simplement, enfin personnellement, je ne me perçois pas simplement comme citoyen avec le mot vague, le caractère vague de ce mot-là, mais je pense qu'il y a la politique existe, les intérêts sociaux existent, et je crois qu'un des problèmes majeurs du conflit yougoslave et de la situation dans laquelle on se trouve, c'est la crise des valeurs, des étiquettes, le brouillage, et que je crois qu'il est de notre responsabilité. Et surtout pour ceux qui se revendiquent de la gauche, d'aller voir derrière les étiquettes et de défendre des valeurs, effectivement. Et je pense que c'est catastrophique au nom de la lutte contre contre l'OTAN et contre l'impérialisme, d'atténuer la responsabilité qu'il y a eu dans l'engrenage des politiques de nettoyage ethnique. Je ne dis pas de purification ethnique, c'est un nettoyage ethnique de territoire pour construire des États élargis et en vider les populations de la communauté minoritaire. Ces politiques-là, sont des politiques qu'on ne doit pas accepter et qu'une gauche digne de ce nom ne doit pas accepter. C'est un conflit qui a donc. Et ce sont des problèmes qui m'ont mobilisé personnellement dès le début de la crise yougoslave. Et je crois que c'est très très important sur ce plan-là de ne pas accepter les faux dilemmes. Et d'ailleurs, la population serbe, d'une certaine façon, ne les a pas acceptés. Koštunica a été élu, non pas contrairement à ce qui a été dit dans un certain nombre de textes sur Internet, simplement par l'argent de l'Occident. L'argent de l'Occident, il a été destiné massivement, et surtout celui des États-Unis, à soutenir Djindjic, du point de vue des politiques économiques, du point de vue de l'orientation et de l'obéissance aux intérêts géostratégiques américains, c'est Djindjic. Mais je pense que s'il y a eu un vote massif pour Kostunica, c'est parce qu'il est apparu, et à juste titre, comme étant corrompu ni par le régime Milosevic, ni par l'OTAN, et parce qu'il a dénoncé à la fois la politique de Milosevic, pas forcément d'ailleurs de la façon dont moi je l'aurais dénoncé, hein, c'est aussi tout un débat, et en même temps les bombardements de l'OTAN et l'action politiste du TPI comme soutien en fait de la politique des États-Unis et de l'OTAN. Et ça, ça plaît pas aux États-Unis, ils n'ont pas payé pour ça, ils sont pas contents de ça.
Pour terminer, il y a 10 ans que ça dure, mais apparemment c'est toujours pas fini, puisque on craint une nouvelle ressucée en Macédoine cette fois. Comment est-ce que vous pensez que ça peut évoluer et comment est-ce qu'on va en sortir un jour?
Écoutez, je suis pas très très optimiste. Enfin, l'élément d'optimisme, c'est quand même que bon, dans la situation de la Macédoine, la politique de Gligorov à l'époque, enfin, c'est-à-dire le premier président dans le cadre des élections libres dans les années 90, a été assez différente de celle de Milosevic, a essayé d'associer les Albanais de Macédoine et certains de leurs partis au gouvernement, par exemple au Parlement, etc. Enfin, c'était des mesures très limitées. Il n'en demeure pas moins que la revendication principale, telle qu'on la connaît, qui s'est exprimée par les principaux partis albanais de Macédoine et d'ailleurs d'Albanie et du Kosovo, n'est pas l'éclatement de la Macédoine, mais la transformation de la Macédoine dans le sens d'une égalité de statut et d'un État multinational. C'est-à-dire qu'il combine une citoyenneté dans un même État avec la reconnaissance en face des Slaves macédoniens, d'une communauté albanaise qui doit être considérée comme une communauté constituante. Et entre parenthèses, je pense que c'est une revendication tout à fait symétrique de celle que avaient les Serbes de Croatie quand ils revendiquaient de garder justement ce statut de communauté constituante, peuple constituant de la Croatie, ce qu'a supprimé Tuđman. Je pense également que au Kosovo, une solution progressiste et de paix serait d'imposer le retour des Serbes qui ont subi un nettoyage ethnique à rebours dans le cadre du Kosovo après l'intervention de l'OTAN et en présence des forces de l'OTAN, donc permettre le retour des Serbes et consolider une constitution du Kosovo qui permette un autogouvernement du Kosovo, alors qui se lie à la Serbie, au Monténégro, à l'Albanie, etc., tout ce qu'on voudra, mais qui permette aux différentes communautés, c'est-à-dire aux Serbes, même s'ils sont minoritaires, et aux Albanais, d'être reconnus pleinement comme peuple constituant du Kosovo. Eh bien, c'est la même chose en Macédoine. Et c'est une revendication qui est portée par la majorité des partis albanais. Donc c'est le petit élément d'optimisme. Alors je crois que le problème, c'est que les pouvoirs de Macédoine et les gouvernements occidentaux, en traitant Lučka de Macédoine simplement comme des terroristes, et en accentuant la répression, risque de provoquer des engrenages irréversibles d'éclatement et pousser à une radicalisation de la population albanaise du Macédoine en solidarité avec Lučka. C'était la stratégie que Lučka avait eue au Kosovo, une stratégie de tension, mais qui, si on y répond, effectivement provoque une solidarité envers la population victime de la répression. Parce que pourquoi cette espèce de cristallisation derrière Lučka pourrait se faire, parce que la question albanaise de Macédoine n'est pas totalement résolue, de même qu'hier la question albanaise du Kosovo ne l'était pas. Et donc je pense qu'on a une situation qui est effectivement grave, et alors entre parenthèses, c'est un fiasco total pour l'OTAN et pour les gouvernements européens. Loin d'avoir stabilisé la région, leur intervention a donné d'ailleurs l'illusion aux Albanais du Kosovo ou de Macédoine, qu'ils pourraient reproduire le même scénario en Macédoine, hein, avec le soutien de l'OTAN, ce en quoi ils se trompent, bon, mais en tout cas, ça leur a créé cette illusion-là. Autre élément qui est frappant aussi, c'est le fait que l'armée yougoslave, qui était dénoncée hier comme génocidaire au Kosovo pour légitimer l'intervention de l'OTAN, est une armée à laquelle on fait appel pour essayer de stabiliser la situation dans la région de Preševo, qui est la zone limitrophe du Kosovo, qui est également très tendue. Bon, donc de façon générale, on peut aussi dire que si Milosevic a certainement des responsabilités majeures dans la crise yougoslave, elles étaient partagées et il n'était pas la cause unique de cette crise ni des guerres. Et la preuve en est que la disparition de Milosevic n'a pas supprimé un processus de désagrégation qui se continue et une non-résolution des questions fondamentales, notamment les questions albanaises dans cet espace-là, mais aussi celle du Monténégro sur le plan national. Et finalement, je dirais que la responsabilité des... Enfin, c'est un échec pour l'Union européenne, à la fois politique, militaire et socio-économique. Politique, parce que la façon de gérer au cas par cas, dans le désordre et en reconnaissant de façon accélérée, prématurée, des États indépendants sans que les questions nationales imbriquées soient résolues, ça a été de l'huile sur le feu. Pyromane, pompier. Ensuite, l'Union européenne essaye de mettre en place un pacte de stabilité, de faire des accords de paix, etc. Mais en même temps, dernier élément, le pyromane pompier, ni par l'intervention de l'OTAN, ni par les privatisations, ne stabilise la région. Les privatisations continuant à pousser au chacun pour soi et non pas une logique solidaire. Et l'Union européenne, en plus, n'a pas le budget pour atténuer les écarts de développement entre les pays du sud de l'Europe et du sud de l'Union européenne et les pays comme l'Allemagne les plus développés. Et donc aujourd'hui, on assiste à des combats internes, à des confrontations, un échec interne considérable sur les questions de l'élargissement vers l'Est et donc aussi de l'argent nécessaire pour stabiliser les Balkans et les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Il n'y a pas l'argent pour ça, il n'y a pas de plan Marshall, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et il n'y a pas non plus la logique économique qui permette de stabiliser la région. Donc, je pense que c'est un fiasco dont l'ensemble des citoyens de l'Union européenne devraient tirer le bilan en toute transparence. Et je pense que c'est dans le développement de mouvements par en bas, et de liens par en bas, syndical, associatif, politique, et la reconstitution d'une autre gauche, je dirais, à l'échelle européenne, qu'on pourra peut-être voir la sortie du tunnel.